Être poussé à bout NO, 1-6. Un état d'urgence nous plonge dans un poussé à bout. Le 20 avril 2016. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, nous poursuivons notre étude du sermon de frère Branham intitulé « Être poussé à bout » et nous commencerons notre lecture au paragraphe 44. 44. Bon. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors vous me trouverez. Et il a promis de revenir pour ramener les gens qui étaient dispersés dans le monde entier après ses 70 ans, à Jérusalem d'où ils étaient partis, et il l'a fait exactement ainsi. C'est vrai. 45. Eh bien, nous allons donc parler de tirer de être poussé à bout pour quelques minutes. Généralement, il faut un état d'urgence pour nous plonger dans le désespoir. Voyez, c'est vraiment dommage qu'il doive en être ainsi. Mais les hommes sont si lents d'esprit qu'il faut une urgence, quelque chose qui surgit, et quand cela leur arrive, alors cela les plonge dans le désespoir. Et quand ils sont réellement dans cette condition, étant poussés à bout, cela dévoile ce que vous êtes réellement. Cela montre de quoi vous êtes fait, quand vous êtes poussés à bout. Généralement, cela manifeste toutes les bonnes choses qui sont en vous. 46. À l'heure de la mort, j'ai entendu des gens dire des choses qu'ils avaient gardées secrètes toute leur vie. Quand ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir, ils, frère Branham parle d'une voix haletante imitant quelqu'un qui esther dans le désespoir. Tirende, étant dans le désespoir, ils cherchaient à confesser cela. Voyez? Et ils essayaient de dire, et, prenez telle chose, et, allez, s'il vous plaît. Allez, faites-le. Voyez? Ils étaient dans le désespoir. Ils auraient dû faire cela avant, voyez, au lieu d'attendre le temps d'urgence. Voulez-vous faire telle et telle chose pour moi? L'urgence fait que l'on soit dans le désespoir alors qu'on devrait faire les choses sans urgence. Remarquez les paroles de frère Branham. Il a dit qu'il faut généralement un état d'urgence pour nous plonger dans un poussé à bout ou un désespoir. Puis il a ajouté que le poussé à bout fait ressortir ce que vous êtes réellement. Afin de rendre ces deux déclarations plus claires pour notre compréhension, nous allons examiner une histoire que Jésus raconte à ses apôtres. Parce que dans cette histoire ou parabole, vous verrez une situation d'urgence survenir dans la vie d'une personne particulière, puis nous verrons la réponse de cette personne à cette situation d'urgence, et la réponse fait ressortir le caractère réel de cette personne. Nous trouvons cette parabole dans Luc 15. 8-10. Et le thème de cette parabole est une épouse qui se trouve dans une atmosphère de désespoir. Une situation d'urgence se présente parce qu'elle a perdu quelque chose de valeur et doit le retrouver avant le retour de son mari. 1. Dans cette parabole, Jésus nous raconte l'histoire d'une épouse qui porte un diadème, une couronne, une tiare ou tout ce qu'on appelait ainsi à l'époque. Dans son diadème se trouvaient 10 pièces d'argent. C'était une tradition hébraïque, et chaque pièce représentait une certaine vertu. Mais Jésus nous dit dans cette parabole que cette épouse avait perdu l'une des pièces de sa coiffe. En effet, il s'agissait d'une situation très grave qui la plongeait dans le désespoir, en raison du retour imminent de son mari. Une urgence, le retour imminent de son mari a donc provoqué un état de désespoir chez cette femme mariée. Si son mari revenait et constatait qu'une de ses pièces avait disparu, il pourrait soupçonner que la pièce lui avait été enlevée parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Telle était la tradition hébraïque. Dans leur tradition concernant la coiffe portée par une mariée, les 10 pièces représentaient 10 vertus différentes. Et s'il en manquait une, on considérait qu'elle avait perdu sa vertu. Lisons donc cette parabole concernant l'atmosphère de désespoir créée par la pièce perdue et le retour imminent de son époux. Et en lisant cela, n'oublions jamais que William Branham, prophète de Dieu confirmé, dans son sermon Shalom 64-019 page 92, a déclaré que tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Par conséquent, en lisant cette parabole qui traite de l'épouse dans un état de désespoir, provoqué par une situation d'urgence, je veux que vous pensiez à l'épouse de Christ en ce temps de la fin, parce que nous attendons également le retour de notre époux. Maintenant, avant de lire cette parabole, je veux que vous compreniez que le personnage central de cette parabole est une femme, et rappelez-vous, une femme représente toujours une église. Et la scène qui se déroule concerne les mesures frénétiques et laborieuses prises par cette femme pour retrouver sa pièce d'argent manquante, qui représente l'une de ses vertus, afin d'assurer son statut vertueux auprès de son époux. Ouvrons donc nos Bibles, et lisons cette parabole de la femme et de ses 10 pièces d'argent, et pendant que nous lisons, je veux que vous remarquiez que j'ai décomposé cette parabole en 12 détails spécifiques qu'il faut considérer, afin de comprendre ce dont il s'agit, parce que, comme frère Branham l'a dit dans son sermon Shalom, le Nouveau Testament tout entier parle de cette heure-ci. Ainsi, commençons la lecture de Luc 15. 8 ou qu'elle, 1, femme qui ayant 2, 10 pièces d'argent, si elle, 4, en perd une, 5, n'allume une bougie, et Néhémie, 6, balaie la maison, et, 7, cherche minutieusement jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée, 9, et quand elle l'a trouvée, 8, elle appelle, 9, ses amis et ses, 2, voisines, 10, ensemble disant, 11, réjouissez-vous avec moi, car, 12, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez que cette parabole parle de la seconde venue de Christ. En gardant cela à l'esprit, voyons ce que la voix de Dieu pour cette génération a dit sur la seconde venue du Seigneur. Dans son sermon, avec ces mêmes mots en guise de titre, la seconde venue du Seigneur Jefferson Villine et sa mère 17 avril 57. 17. Maintenant, j'aimerais lire juste un verset, une ligne ou deux dans la Sainte Parole. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 8, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, Néhémie balaie la maison, et Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue, 1:8. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ, et tu aurais aimé cela parle de la seconde venue de Christ. Nous voyons donc ici que frère Branham nous dit que cette parabole qu'il vient de lire a trait à la seconde venue du Christ. Et comme vous le voyez, nous l'avons lu comme notre texte et nous avons indiqué 12 symboles ou événements qui ont lieu dans cette parabole, et dont nous devons comprendre la signification, si nous voulons comprendre la signification de cette parabole, et comment elle parle de la condition de l'épouse en cette heure. Et remarquez comment cela rejoint les pensées de frère Branham dans son sermon Être, pousse à bout, qu'il faut généralement un état d'urgence pour nous, plongé dans un poussé à bout ou un désespoir. Puis il a ajouté que le poussé à bout fait ressortir ce que vous êtes réellement. Le premier symbole mentionné par Jésus Esther en fait une question qu'il pose. Il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, Néhémie balaie la maison, et Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Maintenant, remarquez que dans cette Bible, il y a un point d'interrogation qui nous montre que c'est une question que Jésus pose. Qui est cette femme? Ou que représente cette femme? Car c'est exactement ce que Jésus nous demande. Il dit, quelle femme ou qui est cette femme qui jouerait cette scène dans ces circonstances? C'est pourquoi, pour comprendre cette parabole, nous l'avons décomposée en 12 symboles et actions spécifiques à considérer. Lorsque nous aurons compris chaque symbole et chaque action, nous comprendrons comment ils sont liés à cette heure. Numéro 1, Nous devons savoir qui est-elle cette femme? Qui elle représente? Car si nous Néhémie ne comprenons pas qui ou ce qu'elle représente, nous Néhémie ne pouvons même pas commencer à comprendre la parabole elle-même, et comment elle peut s'appliquer à cette heure. 3. Numéro 2, nous comprenons qu'elle a 10 pièces d'argent, et nous devons donc comprendre pourquoi elle a 10 pièces et ce que cela signifie. Pourquoi pas 7? Ou 8? Ou 9? Qu'y a-t-il de si significatif dans ce nombre 10, pour que Jésus l'ait utilisé à dessein dans cette parabole sur les pièces d'argent? Numéro 3, puisque nous savons qu'elle a des pièces d'argent, nous devons donc savoir ce que ces pièces d'argent représentent? Numéro 4, puisqu'elle a perdu une pièce et qu'elle s'acharne à la chercher, nous devons nous poser la question suivante. Que représente la pièce d'argent manquante et pourquoi cherche-t-elle si désespérément à la retrouver? Numéro 5, dans sa recherche de la pièce d'argent manquante, elle allume une bougie. Pourquoi une bougie? Nous devons donc nous demander ce que signifie le fait d'allumer une bougie. Numéro 6, et au cours de sa recherche de la pièce d'argent manquante, nous la trouvons en train de balayer sa maison, et nous devons donc nous demander que signifie pour nous le fait de balayer la maison en cette heure? Numéro 7, puisqu'elle semble être si diligente dans sa recherche de cette pièce manquante, nous devons nous demander ce que cette pièce d'argent a de si important pour qu'elle mette toute la maison sans dessus dessous en la cherchant. Pourquoi est-elle si désespérée de le trouver avant que son mari Néhémie rentre à la maison? Pourquoi cherche-t-elle si désespérément cette pièce d'argent manquante? Quelles sont les circonstances qui la poussent à entrer dans ce qui semble être un état de panique, un désespoir de retrouver cette pièce d'argent perdue? Numéro 8, une fois qu'elle a retrouvé la pièce d'argent manquante, il faut comprendre la signification de sa convocation de ses amis et de ses voisines ensemble. Pourquoi les appelle-t-elle? Qu'est-ce que cela signifie? Numéro 9. Nous devons ensuite nous demander, qui sont ses voisines et ses amis qu'elle appelle? Numéro 10, et pourquoi les a-t-elle appelés ensemble? Pourquoi ensemble? Que signifie le fait d'appeler ces gens à se rassembler? Numéro 11, que signifie sa joie dans cette parabole? Numéro 12, pourquoi les mots « j'ai retrouvé ce qui était perdu » sont-ils si importants dans l'histoire? Maintenant que nous avons posé de nombreuses questions auxquelles il faut répondre, commençons notre étude par le point numéro 1, qui est-elle cette femme? C'est-elle une très bonne question, et puisque Jésus Néhémie ne nous dit pas son nom, nous devons donc supposer qu'elle est mentionnée en type pour représenter un groupe quelconque. 4. Alors, dans son sermon « Pourquoi Néhémie, sommes-nous pas une dénomination ?» Jeffersonville, USA, Sam 27 septembre 58. Frère Branham nous dit, 32. Bon, une femme, dans la Bible, représente une église. Combien savent cela? Nous sommes une épouse. L'église est-elle une épouse? Nous supposerons donc que cette femme dont parle Jésus dans cette parabole est-elle une église, ou plus précisément une épouse. Nous devons alors nous demander quelle église elle représente ici, car il y a une vraie église et une fausse église. La vraie s'appelle l'épouse, tandis que la fausse s'appelle une prostituée, car une prostituée est-elle une femme qui est-elle infidèle à son mari. C'est-elle ainsi que nous commençons à avoir un indice sur le comportement particulier de cette femme et sur la raison pour laquelle elle cherche si assidûment cette pièce d'argent. Dans la parabole des dix vierges, les dix vierges représentent l'Église dans sa pureté, sans aucun credo inventé par l'homme. Elle Néhémie croit qu'en la Bible. Elle croit en sola scriptura, comme l'a dit Martin Luther dans sa lutte contre l'Église catholique. Le nombre 10 que nous trouvons dans la parabole des dix vierges ainsi que dans cette parabole des 10 pièces d'argent, représente selon E.W. Bullinger dans son livre Numbers in Scripture, dit Esther la fin d'un ordre divin. Nous comprenons cela parce que nous avons les nombres de base de 1 à 9 et que nous recommençons à 10. Se dit Esther la fin d'un cycle ou d'un ordre divin. Numéro 2, Nous savons qu'elle a 10 pièces d'argent et nous devons donc comprendre pourquoi elle en a 10 et ce que cela signifie. Pourquoi Jésus utilise-t-il 10 pièces d'argent dans sa parabole? Et qu'est-ce que cela signifie? Or, le nombre 10 est l'un des nombres parfaits et il est significatif parce qu'il représente l'ensemble du système numérique parvenu à son achèvement. Par conséquent, le chiffre 10 signifie que le cycle entier est maintenant terminé. Le nombre 10 est également utilisé dans les Écritures pour représenter la fin d'un cycle, comme Dieu a achevé le cycle de l'homme à l'âge antédiluvien avec Noé. Noé était la 10e génération à partir d'Adam, apportant une nouvelle alliance de la part de Dieu, et Abraham était la 10e génération à partir de Noé, apportant une nouvelle alliance inconditionnelle de la part de Dieu. Ensuite, il y a les 10 commandements et les 10 espions que Moïse a envoyés pour explorer le pays. Et il y avait 10 rangées de 10 talents d'argent, qui constituaient la base du tabernacle dans le désert. Les 10 mystères 1/10, qui représentent la totalité de ce qui est dû à Dieu, montrant ses droits sur l'ensemble, et il y a eu 10 plaies sur l'Égypte, qui ont mis fin au cycle du pouvoir mondial en Égypte. 5. Donc, nous voyons que le nombre 10 représente une conclusion, et se réfère à l'arrivée dans un cycle complet. Et ici, dans cette parabole, nous voyons que Jésus fait référence à 10 pièces d'argent. Or, 10 signifie la fin. Nous voyons donc que dans cette parabole, Jésus parle de la fin de quelque chose. Et puisque le nombre 10 fait référence aux pièces d'argent dans cette parabole, nous devons comprendre ce que signifie l'argent dans les Écritures afin de savoir ce qui arrive à son cycle complet, et donc à sa fin. Maintenant, puisque les 10 pièces d'argent concernent cette femme, nous devons comprendre que, quoi qu'il en soit, c'est si important pour cette femme qu'elle devient désespérée dans ses tentatives pour trouver la pièce manquante. Et puisqu'il s'agit de la femme, nous devons découvrir ce que représente l'argent afin de comprendre sa réaction face à son absence. Car si 10 représente la conclusion de quelque chose, et que cela concerne la femme, alors cela peut nous dire pourquoi elle est si désespérée de la retrouver. Et n'oubliez jamais qu'une femme représente l'Église. Numéro 3, nous savons qu'elle avait 10 pièces d'argent, et nous devons donc savoir ce qu'elles sont, et ce qu'elles représentent. Dans les Écritures, l'argent représente la rédemption par le raffinage. La rédemption signifie ramener à son état d'origine, et raffiner signifie amener à la pureté. Le raffinage représente le processus par lequel les scories sont retirées de l'argent afin qu'il soit exposé dans sa pureté. Les scories sont ceux qui n'estèrent pas une partie pure de l'argent. Ce sont les impuretés que l'on trouve dans l'argent, ou tout autre métal précieux. Et les scories représentent le péché dans notre vie. Ces choses qui nous rendent impurs, et qui ont besoin d'être raffinées hors de nous. Dans 1 Pierre 1, 18-19 nous lisons, 18 d'autant plus que comme vous le savez, vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre reçue par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, 19 mais avec le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous lisons également dans Psaume 12, 6 les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné dans un creuset de terre, purifié cette fois, ce qui représente 7 messages pour les 7 âges. Psaume 66, 10 car toi, ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l'argent. Nous voyons donc que le fait d'être éprouvé par Dieu est comme de l'argent qui est raffiné. L'argent représente donc les épreuves ardentes de la rédemption. Il est intéressant de noter que la Société géologique des États-Unis, US, nous a informé que l'argent de la Terre sera totalement épuisé, 6, d'ici 2020. Nous vivons donc à une époque où le cycle de l'argent en tant que métal précieux extrême et émis sera plus disponible. Cela devrait nous faire comprendre que les feux de raffinage de la rédemption de Dieu sont également sur le point de s'éteindre. Le naturel est synonyme de positif, comme nous le comprenons par l'intermédiaire d'un prophète de Dieu confirmé. Nous voyons donc que cette femme avait ces 10 pièces d'argent qui représentaient la fin du cycle de pureté et de raffinement. Elle représentait toutes les vertus qu'elle était pour son mari, et en perdant l'une de ces pièces, nous pouvons voir comment cela aurait une grande signification pour sa relation avec lui. S'il revenait à la maison et que Néhémie lui manquait qu'une seule pièce, Néhémie la recevrait pas comme sienne. Ces pièces représentaient donc non seulement son raffinement, mais aussi sa rédemption. Le mot racheter signifie racheter ou ramener à sa juste place. Par conséquent, lorsqu'il est revenu, le fait d'avoir les 10 pièces d'argent signifiait qu'elle se préparait à être ramenée en sa présence et à recevoir la place qui lui revenait de droit à ses côtés. Mais s'il lui manquait une pièce d'argent, cela signifiait qu'elle était rejetée, déshonorée et séparée. Également dans son sermon La seconde venue du Seigneur Jefferson Villinuet sa mère 17 avril 57. Frère Branham dit, 54. Il est Esther plus tard que nous Néhémie le pensons. Nous Néhémie venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous Néhémie venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place, mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. 55. Jésus-Christ, le Fils de Dieu a comparé cela, d'après ses propres termes, à une femme. Et dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette femme, dont le mari avait voyagé, et qui avait perdu une des drachmes de sa tablette. Maintenant, j'essaierai d'expliquer cela. 56. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devrait porter une alliance, signe montrant qu'elle est mariée. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. 57. En ces jours-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette, on appelle cela une tablette, qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes, et elle entourait la tête. Et c'était là le signe qu'elles étaient des femmes mariées, et aucun homme Néhémie devait s'amuser avec elle. Aucun garçon Néhémie devait flirter avec elle. Elles étaient mariées. 61. Oh! S'il y a jamais eu un temps où l'église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est Esther bien maintenant. Il fait sombre. La tire et l'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout s'estère le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible, où règne la méchanceté. Les gens n'aiment vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste, 7, du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent, les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles n'aiment et devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Et cependant, elles les portent en public dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. 62. La nuit tombait, et souvenez-vous, son mari devait retourner. Et s'il la trouvait avec Néhémie fût-ce qu'une drachme de moins, cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostituée. 63. Et si elle avait souillé Tirès s'était souillée d'une façon ou d'une autre et que les gens l'avaient vue, on l'amenait devant le sacrificateur et on apportait la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Et si le sacrificateur constatait qu'elle était une femme mariée, il retirait de sa tablette une drachme en considérant le mal acquis qu'elle avait fait. Si elle avait tiré, si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Si elle avait flirté, elle montrait ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari, on lui enlevait la drachme correspondante. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la drachme correspondante. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée, et il divorçait immédiatement et n'avait plus rien à faire d'une telle femme. Il n'aimait voulait plus d'une telle femme. 64. Ainsi, c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison, et il se faisait tard. 65. L'Église fera mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui tirée de sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est certain pour nous de faire l'inventaire. Il se fait tard. 66. Eh bien, pour que, il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer la maison. 70. Et, écoutez bien. L'Église est en train de fainéanter. L'Église n'a plus de conscience. Sester à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu'elle en viendrait à dire, voici, notre maître tarde à venir. Et les gens s'entre-dévoreraient, se mordraient tout, et se combattraient les uns les autres. On Esther très exactement en cette heure-là. Tout Esther prêt, les pages sont tournées pour ainsi dire, et la venue du Seigneur Esther proche. Remarquez à nouveau comment frère Branham nous fait savoir ici, que cette parabole se rapporte directement à l'heure actuelle et à la condition de l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi du mari jaloux. Et si le mari rentrait à la maison et soupçonnait que sa femme avait été infidèle pendant son absence, il y avait une certaine chose qu'il pouvait faire, et nous trouvons cela dans Nombre, chapitre 5. À propos, pour ceux d'entre vous qui sont avec Frère Well depuis le début des années 80, vous pouvez vous rappeler quand j'ai prêché sur la loi du mari jaloux il y a plus de 20 ans pour l'église de Frère Well, lorsqu'il était malade. 8, 11 et le Seigneur parla à Moïse, disant, 12 parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, si la femme de quelqu'un se détourne et commet une transgression contre lui, 13 et qu'un homme couche charnellement avec elle, et que cela soit caché aux yeux de son mari, et qu'elle se soit cachée, et qu'elle soit souillée, et qu'il n'y ait aucun témoin contre elle, et qu'elle n'ait pas été prise en faute, 14 et que l'esprit de jalousie vienne sur lui, et qu'il soit jaloux de sa femme, et qu'elle soit souillée, ou si l'esprit de jalousie vienne sur lui, et qu'il soit jaloux de sa femme, et qu'elle n'ait aimé soit pas souillée, 15 alors l'homme amènera sa femme devant le prêtre, et il apportera pour elle son offrande. La dixième partie d'un épha de farine d'orge, en d'autres termes, l'orge vert. Il n'y versera pas d'huile dessus, et n'y mettra pas d'encens, car Chester une offrande de jalousie, une offrande de mémorial, met en mémoire l'iniquité. 16 et le prêtre la fera approcher, et la placera devant le Seigneur. 17 et le prêtre prendra de l'eau sainte, dans un récipient de terre, et le prêtre prendra de la poussière, qui sera sur le sol, en d'autres termes, le body taudis du tabernacle, et la mettra dans l'eau. 18 puis le prêtre placera la femme debout devant le Seigneur, et découvrira la tête de la femme, et mettra dans ses mains l'offrande de mémorial, qui est l'offrande de jalousie, et le prêtre aura dans sa main l'eau amère qui cause la malédiction. 19 et le prêtre la chargera par serment, et dira à la femme. Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu n'es mis tes ailes pas détournées et rendu souillé avec un autre que ton mari, sois exempte de cette eau amère qui cause la malédiction. 20 Mais si tu t'ésailles détourné en étant avec un autre que ton mari, et que tu te sois souillé, et que quelque autre que ton mari ait couché avec toi. 21 Alors le prêtre chargera la femme, par un serment de malédiction, et le prêtre dira à la femme, que le Seigneur te fasse être une malédiction et un serment au milieu de ton peuple, quand le Seigneur fera pourrir ta cuisse et enfler ton ventre. 22 Et cette eau qui cause la malédiction entrera dans tes entrailles, pour faire enfler ton ventre et pourrir ta cuisse. Et la femme dira, Amen, Amen. 23 Et le prêtre écrira ses malédictions dans un livre, et il les effacera avec l'eau amère. 24 Et il fera boire à la femme l'eau amère qui cause la malédiction, et l'eau qui cause la malédiction entrera en elle et deviendra amère. 25 Alors le prêtre prendra de la main de la femme l'offrande de jalousie et tournera l'offrande devant le Seigneur, et l'offrira sur l'autel. 26 Et le prêtre prendra une poignée de l'offrande, savoir, pour mémorial, et la brûlera sur l'autel. Et ensuite il fera boire l'eau à la femme. 27 Et après qu'il lui aura fait boire l'eau, il arrivera que si elle s'estère souillée et qu'elle ait transgressé contre son mari, l'eau qui cause la malédiction entrera en elle et deviendra amère, et son ventre enflera, et sa cuisse pourrira. Et la femme sera une malédiction au milieu de son peuple. 28 Et si la femme n'est mise s'estère pas souillée, mais qu'elle soit pure, alors elle sera exempte, et concevra semence. 29 Celle-ci estère la loi des jalousies, lorsqu'une femme se détourne vers un autre que son mari, et s'estère souillée. 30 Ou quand l'esprit de jalousie vient sur le mari, et qu'il estère jaloux de sa femme, il placera la femme devant le Seigneur, et le prêtre exécutera sur elle toute cette loi. 31 Alors l'homme sera innocent de son iniquité, et cette femme portera son iniquité. Or, je pense qu'il est intéressant de constater qu'un certain groupe de personnes a pris part à cette loi du mari jaloux sans même le savoir à l'époque. Ils ont pris de l'orge vert et de la poussière appelée grog et Néhémie savait pas à l'époque qu'il prenait l'eau amère qui cause la malédiction. 9. Remarquez ici que l'eau ester qualifiée d'amère est dans la version King James. Il ester dit que l'eau ester la cause de la malédiction. Mais ce qui cause réellement la malédiction a été expliqué dans l'écriture comme étant la question de savoir si la femme était coupable ou non. En effet, ce n'est pas l'eau qui provoque la malédiction, mais ce qu'elle a bu n'était qu'un catalyseur qui a fait apparaître ce qui était déjà là. Tout comme le lavage de l'eau par la parole met en évidence la semence d'une personne. Comme le dit Paul, ce qui rend manifeste, c'est la lumière, et Jésus, la parole, est la lumière du monde. Or, si la femme était innocente, il n'y aurait pas de malédiction sur elle, mais une bénédiction. Tout comme les eaux du déluge. Les mêmes eaux qui ont détruit la méchanceté de l'homme sur la terre, et lavé la terre des péchés de l'homme, sont les mêmes eaux qui ont élevé Noé au-dessus de la terre et l'ont éloigné de la mort et de la destruction qui se trouvait en dessous. L'eau amère représente la purification de l'eau par la parole. Tout comme le rouleau amère que le prophète a mangé représentait la parole de Dieu, douce à la bouche mais amère à l'estomac. Numéro 4, que représente la pièce d'argent manquante? Et pourquoi cherche-t-elle désespérément à la retrouver? Pourquoi est-elle préoccupée par le fait qu'elle n'en possède que 9? La seconde venue du Seigneur Jefferson Villinus sa mère 17 avril 57 paragraphe 58. Chacune de ces drachmes. Si seulement nous avions le temps, mais je n'en ai pas, je vais essayer de tenir parole. Autant que possible, je pouvais vous dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là, et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première représenta son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième et la cinquième, jusqu'à la neuvième et la dixième. 59. Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représentait l'Église, et l'Église Esther une femme, qui Esther mariée à Christ. Et la tablette que l'Église Esther supposait porter Esther mentionnée dans Galates 5. C'est Esther la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu'on Esther censé porter dans l'Église, l'amour fraternel, l'amabilité, l'amitié. 60. Et cette femme, il devait faire presque sombre lorsqu'elle découvrait qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Et remarquez qu'il dit, il devait faire presque sombre lorsqu'elle découvrait qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Cela signifie qu'il Esther, à peu près à l'heure du soir. Maintenant, frère Branham se réfère à Galates 5:22 au sujet de ces 10 pièces d'argent qu'elle portait dans sa tablette. Lisons donc pour nous-mêmes. Mais le fruit de l'esprit est 1, l'amour, 2, la joie, 3, la paix, 4, la longanimité, 5, la bienveillance, 6, la bonté, 7, la foi, 23, 8, la soumission, 9, la tempérance, contre de telles choses, il n'y a, 10, pas de loi. 24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Maintenant, remarquez qu'il n'est mis s'agit que de 9 fruits de l'Esprit, mais que le fruit le plus important, le 10e fruit de l'Esprit, est absent ici. Et sans ce fruit, vous pourriez avoir les 9 fruits de l'Esprit qui sont énumérés dans Galates 5, et être quand même considéré comme adultère, exactement comme le craignait la femme de notre parabole. Un paradoxe Bakerfield CA USA, je 6 février 64 des paragraphes 212. Mais nous parlons tellement des évidences. Nous les pentecôtistes, nous considérons comme évidence le parler en langue, et combien nous avons terriblement été trompés en cela. Et bon nombre d'entre eux disent, les fruits de l'esprit, c'est Esther cela l'évidence? Combien vous êtes terriblement trompé par cela? Ce n'Esther pas du tout cela. Rappelez-vous que la femme avait encore 9 pièces d'argent, ce que frère Branham nous a dit être les 9 fruits de l'esprit, et qu'elle avait peur parce qu'elle devait en avoir 10. Cette pièce manquante montrerait que le sacrificateur la considérait comme une femme adultère. Combien de personnes à la voix douce, aux manières douces, aimant la paix, à l'esprit doux, ont refusé le Dieu même du ciel, qui Esther descendu avec un cri. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, Dallas, USA, mère 4 mars 64 frère Branham, dit paragraphe 38. Ces pharisiens pouvaient produire 10 fois plus de fruits que Jésus. Le saviez-vous? Dieu.esther.identifié.par.c.caractéristiques souligné Beaumont.txv 10. N2 mercredi souligné 64-031 souligné 68. Certains disent, c'est Esther par le fruit de l'esprit, c'est Esther ça. Et c'est Esther faux. La seule preuve, c'est Esther quand la confirmation, quand Dieu lui-même s'identifie dans la parole promise de l'heure. Voilà. 69 qui avait plus de fruits de l'esprit que ces bons vieux sacrificateurs, qui circoncisaient les enfants et les bénissaient, et tout le reste. Et voilà ce gars, Jésus, qui arrive, il a renversé les billots qui servaient à leur sacrifice, les a regardés d'un regard furieux, leur a donné des coups de fouet, les a chassés, sans s'identifier aucunement. C'est Esther l'écriture qui l'identifie. Il n'avait pas de carte d'une association. Il n'est mis faisait partie d'aucune organisation. Mais Dieu avait parlé de lui, c'est Esther ça qu'il identifiait. 70 Voilà l'authentique identification de Dieu, à toute heure, c'est Esther ça son identification. C'est Esther ça, les écritures qui ont été promises, identifiées par la caractéristique de la promesse, c'est Esther à dire Dieu, et Dieu Esther la parole. Et la caractéristique de cette promesse? Identifier. Cester ce qui produit le croyant. Jésus l'a dit. Alors Cester réglé. Amen. 71 remarqué. Alors nous voyons que les caractéristiques l'identifient. Si. Il a dit, si Néhémie le font pas, alors Néhémie me croyait pas. Alors, Jésus a dit qu'elle l'identifierait. Que point feront point nous point de point ce point Jésus souligné, phoenix.z, v3. N4, dimanche souligné 64-0126 souligné 109, la science chrétienne a dit, l'amour, vous, avez le fruit de l'esprit, mais Néhémie l'ont pas. Il nie la divinité de Jésus, Christ. 11, 110 qu'elle en Esther l'évidence? C'est Esther lorsque l'esprit qui Esther en vous peut ponctuer chaque promesse par un Amen, et que Dieu confirme cela. C'était exactement comme ça avec Jésus-Christ. Oh oui. Ils avaient plus de fruits de l'esprit, ils avaient toutes sortes d'évidences. Vous Néhémie pouvez mettre le doigt sur aucune autre évidence que Dieu lui-même manifestant sa parole. C'est Esther la seule véritable évidence que vous êtes un chrétien. 64-1227 qui point dit point vous point que point c point est souligné phoenix point z dimanche souligné 218. La preuve du Saint-Esprit, c'est Esther de croire sa parole. Ça a toujours été, dans chaque âge, si vous pouvez recevoir les paroles. Ces sacrificateurs surpassaient Jésus d'un million de mille, pour ce qui Esther des fruits de l'esprit, aimable, paisible, doux et humble. Lui, il démolissait les églises, renversait tout, il perturbait les gens, et les traitait de serpents dans l'herbe, et tout. Voyez? Mais il était cette parole. Il était cette parole. C'est Esther ça, croyez Dieu. Dieu Esther la parole. Croyez-la. Maintenant, nous vous avons montré ici que le fait d'avoir 9 fruits de l'esprit Néhémie signifie toujours rien lorsque l'époux vient chercher son épouse. S'il s'avère qu'elle n'a pas ce 10e fruit, alors elle Esther toujours rejetée, divorcée comme une prostituée et séparée de sa présence pour toujours. Alors, quel Esther donc ce 10e fruit, qui Esther si crucial que, sans lui, vous n'avez pas celui qui Esther venu pour vous? C'est Esther un fruit de l'esprit, mais pas l'intention mentionnée dans Galates chapitre 5. Frère Branham nous dit ce qu'Esther ce fruit dans son sermon, les points 1.du.temps.de.e. la point fin souligné 65-0725m souligné jeff.yen paragraphe 59 remarqué, mais Esther à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. Esther à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. Puis il dit, le fruit, Esther quoi? La parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que Esther, leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison, l'heure qu'il Esther. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l'homme, mais, ou bien la parole de Dieu pour la saison? En d'autres termes, la doctrine de l'homme, doctrine dénominationnelle, ou la doctrine de Dieu. Alors qu'elle Esther le 10e fruit, ou la 10e pièce d'argent qui a raffiné l'identité de cette jeune femme? C'est Esther la doctrine de Christ, la seule doctrine dont la Bible dit, si vous n'avez pas cette doctrine, vous n'avez pas Dieu. C'est Esther la seule doctrine qui, sans elle, vous sépare de la présence du Seigneur. Il le faut, car cette femme savait que si son époux rentrait à la maison et qu'elle Néhémie l'avait pas, elle serait exclue de sa présence, et elle Néhémie l'aurait plus. Il lui dirait, je t'ai connu comme ma femme, mais je Néhémie te connais plus comme ma femme. Et l'apôtre Jean nous dit en 2 Jean 9 celui qui a la doctrine de Christ à Dieu. 2 Jean 9 quiconque transgresse, qui va au-delà des limites et Néhémie demeure pas ou Néhémie demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Non, 12, seulement il n'a pas Dieu, mais Néhémie fait pas écho à Dieu. Par conséquent, si Néhémie ne font pas écho à Dieu, ils ne disent pas ce que Dieu a déjà dit, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le « ainsi parle le Seigneur ». Celui qui demeure dans la doctrine de Christ allait fait écho aux deux, le Père et le Fils. Ella.parole.parler.esther.ella.semence.originelle.de-6203-18-jeff.yen, dimanche souligné, 420 souligné remarqué. Quelle harmonie! Jésus Néhémie faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père, ou qu'il Néhémie lui ait d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l'épouse, et il lui montre sa parole de vie. C'est Esther lui qui la lui montre, et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien Néhémie peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence Esther mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là j'aime un gros Alléluia. Voici le secret. La parole Esther dont l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. 421 Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne Néhémie peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c'est Esther lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole, comme il l'avait menée à terme à son époque. Toute chose, quand il était ici, il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Remarquez que si Néhémie lui fait pas écho, elle n'aimait la pas non plus. Mais si elle se fait l'écho de lui, alors elle a ainsi dit le Seigneur, parce qu'elle a ce que le Seigneur a dit ainsi. Et il nous a également dit, dans Jean 2h23 quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Néhémie fait l'écho du Père, mais celui qui reconnaît le Fils, a aussi le fait écho du Père. Beaucoup nous traitent de blasphémateurs, parce que nous disons que Jésus Esther le Fils de Dieu. Mais les religieux de son époque disaient que Jésus blasphémait pour la même raison. Jean 10, 36 Dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Jean 5, 23 Afin que tous les hommes honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, 26 Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Or, nous savons que la dixième pièce d'argent était la doctrine de Christ, car c'est Esther la doctrine que Jésus a reçue de son Père et qu'il nous a enseignée. Jean chapitre 7h16 Jésus leur répondit, et dit, ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Et il a également dit, Jean 14, dit Néhémie crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je, 13, vous dis je Néhémie les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. C'est Esther lui qui fait les œuvres. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas sûr de ce à quoi ressemble ce dixième fruit de l'Esprit, Frère Branham nous dit dans le sermon Messieurs, nous voudrions voir Jésus souligné Mère 4 mars 64-53. Voulez-vous voir ce qu'Esther le fruit de l'Esprit? Observez ce que la Bible promet pour une ordonnée, et cherchez-en la confirmation. Voilà la preuve. C'est Esther la preuve que vous avez reçu le fruit de l'Esprit. Être capable de voir la parole de Dieu se manifester à l'heure dans laquelle vous vivez. Il vous a vivifié, vous qui étiez morts dans les offenses et le péché. Numéro 5, que signifie le fait d'allumer une chandelle? Frère Branham nous dit dans son sermon La seconde venue du Seigneur Jeffersonville, Illinois, sa mère, 17 avril 57, paragraphe 65. L'Église fera mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturées. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui, de sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est certain pour nous de faire l'inventaire. Il se fait tard. 66. Eh bien, pour que, il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer la maison. 67. Oh! Mon frère, s'il y a jamais une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'Évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'Église. Pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion ni pour sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. 68. Et elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Non seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de son mari était proche, et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. 69. Frère, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe, à nous l'Église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'Évangile, et de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose, surtout quand nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. 71. L'Église luthérienne a perdu sa lumière. L'Église méthodiste a perdu sa lumière. L'Église baptiste a perdu sa lumière. L'Église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble avoir disparu. 72. Les pentecôtistes et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Les luthériens agissent comme les catholiques. Et tout a dégénéré en un très grand fêtras de péché. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin, la venue du Seigneur. 14, numéro 6, que signifie balayer la maison? La seconde venue du Seigneur, Jeffersonville, Illinois, sa mère, 17 avril 57-68. Non, seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de son mari était proche. Et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. 73. Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoya le plancher à la brosse. Elle nettoya les murs. Elle enleva les toiles d'araignée. Elle continua jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. 82. Voilà un mari et son épouse qui sont l'image de Christ et de son Église. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville. Vous pouvez avoir le clocher le plus élevé de la ville. Vous pouvez avoir le meilleur orgue. Vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur. Mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n'est rien qu'un baiser de Judas. Il n'aime, il veut rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, Il voit qu'il y a des drachmes qui ont été enlevées de la tablette. Il trouve que l'amour Esther parti. Ce n'est plus qu'un simulacre d'amour. Il découvre que la loyauté Esther parti. Vous avez commis la fornication avec le monde. Vous allez au bal dansant et au fait où l'on joue le boogie ou woogie et vous regardez des programmes malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ tout en l'appelant votre époux. 83. La Bible déclare, tu dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais il a dit, tu n'es mis c'est pas que tu es aïe nu, misérable, aveugle, pauvre. Et tu n'es mis le sait pas. Il est certain tant que nous allumions la chandelle et que nous balayons la maison. La venue du Seigneur Esther proche. Numéro 7. Pourquoi Esther elle si diligente dans la recherche de cette pièce d'argent manquante? Quelles sont les circonstances qui la poussent à paniquer pour retrouver cette pièce d'argent perdue? Les esprits séducteurs, Jefferson Villin USA DIM 24 juillet 55-36. Et, mercredi soir passé, j'ai prêché sur la femme qui portait ce tiret ce collier sur sa tête, où elle avait perdu une de ses drachmes, et elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Et nous avons vu que cette femme était une femme comme celle de l'Orient. Et elle représentait l'Église. Et, autrefois, on est mis porté par l'alliance au doigt. On la portait autour de la tête, et il y avait 9 drachmes dessus. Et quand une femme devenait une prostituée, on enlevait 1 drachme, et ça montrait qu'elle était une prostituée. Et donc, cette femme-là avait perdu 1 drachme, sans être une prostituée, mais son mari avait été absent, et elle se dépêchait d'essayer de trouver 7 drachmes pour la remettre dans son collier. Quand son mari arriverait, il saurait qu'elle avait été surprise en flagrant délit de prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage brisé, et tout. Et, pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'Église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et c'est-à-dire le moment où le Père va venir, alors, nous devons les rechercher. 15. Numéro 8. Que signifie le fait qu'elle ait convoqué ses amis et ses voisins? 64-0719ml.fête.d.trompette-jeff.yen-v9. N3 dimanche-270 et au même moment. Maintenant, dès que cette église l'épouse Esther rassemblée, elle Esther enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. L.Eden.de.Satan-65-0829-Jeff.INV9. N8 dimanche-25 les gens, sans le savoir, adorent Satan, en pensant adorer Dieu. Nous avons été prévenus de ça par prophétie, dans 2 Thessaloniciens. Lisons-le donc, Sester 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenons-le donc un instant, si je peux le trouver tout de suite. J'aimerais le lire, je crois que Sester bien de Thessaloniciens. J'ai le passage de l'Écriture, ici. Dans 2. Pour ce qui concerne l'événement, le mot ici Sester parousia du Seigneur Jésus. Et la réunion avec lui, nous vous prions. Frères, 26 bon, voyez-vous, l'avènement du Seigneur, et la réunion avec lui, donc Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours. La réunion des gens avec le Seigneur, pas avec l'Église, avec le Seigneur. La réunion avec lui. Numéro 9. Qui sont les voisines et les amis qu'elle appelle? Je crois qu'il s'agit de toutes les personnes dans le monde qui ont été appelées par le 10e fruit de l'Esprit, qui Esther la doctrine de Christ, l'enseignement de l'heure. Ils ont été appelés au repas de noces et en sortent avec la même excitation que la femme, l'Église, qui a retrouvé ce qu'elle croyait avoir perdu. Et ils se réjouissent comme si elles avaient elles aussi perdu leur propre pièce d'argent et qu'elles l'avaient maintenant retrouvée. Luc 14, 23 et le Seigneur dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Matthieu 22, 9. Allez donc sur les routes et invitez au mariage autant de personnes que vous trouverez. 10 et ses serviteurs allèrent le long des routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle du mariage fut remplie d'invités. Frère Branham dit, « Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoya le plancher à la brosse, elle nettoya les murs, elle enleva les toiles d'araignée, elle continua jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. Et quand elle l'eut retrouvé, elle invita alors toutes ses petites sœurs, les églises. 74. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur et sa place en Jésus-Christ, alors elle appellera les autres membres du corps en disant, « Venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. » Numéro 10, pourquoi ensemble? Qu'est-ce que cela signifie? Son appel à se rassembler? Cela signifie une unité d'esprit, comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens 1h10. Or je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne mis pas avoir de 16 divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement. Numéro 11. Que signifie la réjouissance dans cette parabole? Apocalypse 19. 7. Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse Esther préparée. 8. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, net et blanc, car le fin lin, Esther la droiture des saints. Numéro 12. Que signifient les mots « J'ai retrouvé ce qui était perdu » Rappelez-vous que dans l'alpha, elle a aussi perdu quelque chose, et que l'alpha doit devenir l'oméga. Et qu'avait-elle perdu dans ce premier âge de l'Église? Elle avait perdu son premier amour. De même, l'Église a perdu son premier amour. Et lorsque Dieu est venu avec un cri en 7 heures, et nous a rendu ce premier amour, nous n'avons pas pu nous taire, et nous avons convoqué l'épouse du monde entier pour savoir ce que nous savons, pour voir ce que nous voyons, pour entendre ce que nous entendons, et pour partager les retrouvailles de notre premier amour. Laissez échapper la pression, Green Lake View et Savin, 18 mai 6202. Notre Père Céleste, nous pouvons voir, Seigneur, que l'Église a perdu son premier amour. Nous pouvons voir que l'Église dans son entièreté, partout à travers le pays, s'est relâchée, non seulement la nation, mais le monde. Nous savons que tu as parlé l'autre matin, disant que le temps de semail était terminé, et que l'unique endroit où semer les semences, c'est dans le champ missionnaire à l'étranger. Ici, on est en train de glaner dans des chaumes. Et, ô Dieu, certainement que ces paroles étaient vraies. 7. Souligné, chapitre 0, page 359, 368-1. Dans cet âge également, la vraie Église avait perdu son premier amour. Cet amour était symbolisé par l'amour d'une jeune mariée et de son époux à leur mariage et durant leurs premières années de vie conjugale. Or, cet amour absolu et cet abandon total à Dieu se refroidissaient. 7. Souligné chapitre 3, page 73, 77-1. Symbole bas le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé étonnant. Viser et relâcher. Les aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu, par laquelle il visait les vocations célestes de Dieu, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. S'est-il avec moins d'ardeur qu'auparavant concevait Jésus-Christ? Ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule physique appelé l'Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Elle s'était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet âge d'Éphèse allait finir par se développer, dans l'esprit de l'erreur, au point que tous les oiseaux impurs de l'air feraient de ses branches leur repère. Cette petite pousse semblerait, aux yeux de la nouvelle Ève, la nouvelle Église, si inoffensive d'après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. L'âge d'Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon, 17, pendant un moment, mais ensuite elle s'était relâchée et, dans ce moment d'inattention, Satan a planté la semence de la ruine totale. 88-2 Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper, et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on est amitié de pas aller voir arrêter de faire ce qu'il faisait avant, et se mettre à faire des choses qu'il n'aimait ni faisait pas au départ. Ils changent de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. 89-1 Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'Esprit, quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'Esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement, l'homme en a pris la direction. Ils ont au fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s'était éteint, et il n'y reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j'ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Dans Jean 5.3, il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. » Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils vont à l'église, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent. S'ils font tout le reste, et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh, Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie, soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n'aimez le voyez pas. Ils n'ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine, 18. Et cela s'emparera de vous si vous n'aimez le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il n'ait mis soit trop tard. 89-3. Mais, comme d'habitude, les gens n'y prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la parole sacrée, Esther si merveilleux, et la manifestation de l'esprit Esther si béni, qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote, comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour avoir à ce que ce réveil continue? C'est Esther là que l'esprit antichrist entre et chuchote, écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu'elle n'ait mis se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église. Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole. Et ils meurent, tout comme Esther morte pour s'être méprise sur une seule parole. C'est Esther la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'Esther pas ce que nous disons de la parole. Mais c'est Esther ce que Dieu a dit. Prions, prions. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, août 2024. Traduit de l'anglais en français par frère Serge Ngoy, veuillez adresser toute correspondance en anglais ou en français, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce sermon à brioncourt@yahoo.com, 19.